L'évangile de ce jour qui nous annonce que le Christ fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu le Père est composé des derniers versets de l'évangile selon saint Marc. Faut-il alors considérer que l'ascension est l'équivalent du mot « fin » qui apparaît à l'écran à l'issue des séances de cinéma? Ça y est, c'est terminé, rentrez chez vous. Le ressuscité est apparu pendant 40 jours à ses disciples. Il leur a dit ce qu'il voulait, et maintenant, il retournerait d'où il vient auprès du Père prendre un repos bien mérité. Est-ce que l'épisode de l'ascension est l'équivalent du « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants » des contes de fées? Ou alors l'ancêtre du départ de Mary Poppins qui s'envole avec son parapluie? L'ascension est en fait encore un acte de salut, est encore un acte de salut accompli par Jésus en deux domaines particuliers. Le premier domaine, c'est l'introduction de la nature humaine dans la vie divine elle-même. En effet, le Christ qui monte à la droite du Père ne se dépouille pas de son humanité comme on retirerait son manteau une fois revenu à la maison. La nature humaine de Jésus n'est pas son bleu de travail qu'il retirerait lorsqu'il rentre dans le sein du Père. Jésus monte au ciel dans le sein du Père avec sa nature humaine. Il y introduit sa nature humaine. Et ainsi, il offre à tous les hommes la possibilité de rejoindre l'intimité de la vie divine, de la communion d'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit au plus intime. Le Christ, notre tête, est entré dans le sein du Père. Tout son corps, c'est-à-dire nous-mêmes qui sommes ses membres, nous le suivrons et nous entrerons aussi pour demeurer avec lui. Voilà que par l'ascension, le Christ nous désigne notre véritable patrie et nous ouvre l'unique chemin qui y mène. Sans l'ascension, si cet épisode n'avait pas eu lieu, la nature humaine, nature créée, n'aurait jamais pu rejoindre le cœur même de la vie divine. Cela dépassait sa capacité et même l'espérance que nous pourrions avoir. Jean de La Fontaine nous racontait dans ses fables le destin funeste de la grenouille envieuse qui voulut se faire grosse comme un bœuf. Et vous connaissez la phrase « la chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva ». Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Combien plus illusoire alors que les illusions de la grenouille, les entreprises de l'homme pour se faire Dieu par sa propre force? Mais par l'ascension, Dieu à qui tout est possible réalise ce qui était impossible à l'homme. Que l'homme, dans sa réalité, corps et âme, avec toute sa nature humaine, devienne participant de l'intimité de la vie divine. Donc ça, c'est la première dimension, le premier domaine de salut que le Christ vient ajouter par l'épisode de l'ascension. Mais il y a un deuxième domaine. Il y a une deuxième dimension de salut que l'ascension accomplit. Et c'est sur cet aspect que je voudrais insister aujourd'hui. L'ascension est un départ du Christ pour nous ménager un espace. Dieu se retire pour que nous gagnions responsabilité. Le Christ qui conduisait en personne la barque de l'Église monte aux cieux pour que nous prenions la barre. Il se retire non pas parce qu'il en aurait assez, non pas parce qu'il n'aurait plus rien à faire, mais pour que nous prenions place, pour que nous assurions avec sa grâce son œuvre. Et cela rejoint dans les évangiles un thème qui était récurrent et auquel peut-être nous n'avions pas prêté beaucoup d'attention. C'est le thème de l'intendant. Souvenons-nous dans les synoptiques de la parabole des talents en Matthieu 25. Vous savez, ce maître qui donne des talents, c'est-à-dire à peu près 10 000 pièces d'argent, en garde à certains de ses serviteurs, à chacun selon leur capacité. À l'un, il en avait deux confiés 5, à l'autre 2, à un troisième 1. Et puis, ensuite, il leur demande des comptes de leur activité. Mais ce qu'on ne remarque pas, c'est que le Seigneur, qui a demandé des comptes, ne reprend pas les talents gagnés aux serviteurs. Au contraire, il les établit sur beaucoup. On aurait pu imaginer, ça y est, il avait confié, il revient, il reprend les talents, il reprend ce qui avait été confié. Ce n'est pas ce qui se passe. Non, il leur laisse ce qu'il y avait confié et ce qu'ils ont gagné. On a encore, en Luc 12, une parabole avec un intendant fidèle et avisé que le maître établit sur ses gens pour leur donner en temps voulu leur ration de blé. Et le maître, quand il revient, le trouvant à la tâche, l'établit, nous précise-t-on, sur tous ses biens. On a donc cette affirmation que l'objectif du Seigneur est que l'intendant puisse avoir la gestion de tous les biens, à la fois gestion et jouissance de tous les biens. Nous avons la manifestation que la joie de Dieu, c'est que l'homme reçoive la gestion de tous ses biens divins. La volonté de Dieu est que l'homme puisse recevoir la gestion de tous les biens, puisse administrer tous les biens de Dieu. Le « entre dans la joie de ton maître » adressé aux serviteurs qui ont porté du fruit avec le bien confié est une mise en œuvre de ce dessein. Le Fils a tout reçu du Père qui n'a rien gardé en réserve. Le Fils nous appelle, nous aussi, à tout recevoir de lui et à entrer dans sa mission à lui pour, comme lui, avec lui, tout remettre au Père. Comme on est loin du soupçon jeté par le serpent de la Genèse sur le dessein de Dieu. Vous vous souvenez, le serpent voulait faire croire à Adam et Ève que Dieu était un obstacle entre nous et notre plus grand bien. Vous pourriez devenir comme des dieux, mais Dieu ne le veut pas, et c'est pour ça qu'il vous a dit que de ne pas toucher à ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il sait que vous redeviendriez comme des dieux, et il ne le voudrait pas. Nous voyons là que le dessein de Dieu est vraiment de nous donner part à sa vie dans la gestion de tous ses biens. Mais pour que cela advienne, il faut quand même que nous nous laissions conduire par son esprit. Il faut que nous soyons animés dans notre gestion, dans notre souci des autres, dans notre charité, par le même esprit de charité que le Seigneur a, qui est le Saint-Esprit. Cela est essentiel si nous ne voulons pas que le don de Dieu soit confisqué ou transformé en outil de domination, au lieu d'être partagé pour le bien de tous. Et du coup, cette gestion complète doit aussi être accompagnée par l'entrée dans un véritable esprit d'humilité. En nous souvenant de la parole de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans toi, Seigneur Jésus, j'ai conscience que je ne peux rien faire. Et tout ce que je possède, je sais que je le tiens de toi, Seigneur. » Cette humilité, c'est de reconnaître, en fait, pour prendre une image, que toi, Seigneur, tu es la source, et moi, je suis le ruisseau ou la fontaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, coupé de la source, le ruisseau ou la fontaine, bien vite, s'assèche. Bien vite, ni le ruisseau ni la fontaine n'ont plus aucune eau à partager. Et il nous faut comprendre que nous pouvons être abondants de cette eau de la grâce, dans la mesure où, ayant compris qu'elle ne vient que de Dieu, je reste pour toujours et joyeusement uni au Seigneur qui est la source. Ceci donc est la deuxième dimension de salut de l'acte de l'ascension, le Seigneur Jésus qui fait de la place pour que nous prenions nous-mêmes cette responsabilité et ce souci avec la grâce de Dieu. Et quel est l'objectif ultime? Mais c'est bien que nous vivions comme Dieu, que nous participions effectivement avec l'œuvre de Dieu, que nous ne soyons pas à distance en regardant ce qui se passe comme des vaches qui regardent passer un train, mais que nous soyons acteurs avec Dieu, acteurs dans la grâce de Dieu. Et lorsqu'on prend conscience de cette dimension du salut, Dieu que nous veut que nous participions, que nous soyons acteurs de sa vie avec lui, on comprend alors mieux le rôle et la place de la Vierge Marie dans la foi chrétienne. Parce que parfois, On ne le comprend pas bien, et du coup on se demande, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces dévotions mariales quand même ? On dit, mais parfois on le soupçonne même, et on se dit, mais est-ce qu'on est en train de faire de la Vierge Marie une quatrième personne de la Trinité ? C'est pas possible, la Vierge Marie n'est pas Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'on la met à toutes les sauces, on veut la faire intervenir partout ? Pourquoi est-ce que un Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dirait « tout à Jésus par Marie » ? On ne peut pas y aller directement. Voilà. Marie, 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 prend beaucoup de place quand même. En fait, c'est qu'on n'a pas compris à ce moment-là que justement la Vierge Marie est le signe de ce dessein de Dieu de remettre entre nos mains son œuvre et de nous voir pleinement participants de son œuvre. La Vierge Marie est justement celle qui a le mieux compris et qui s'y est investie totalement dans ce projet de Dieu. Il s'est penché sur son humble servante, elle sait bien qu'elle n'en est pas la source, et ayant compris qu'elle avait besoin d'être sans cesse unie au Seigneur, elle est remplie de joie. « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Au jour de l'Annonciation, elle est entrée dans ce dessein de Dieu. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » On la voit à Cana, justement, invitée à prendre aux serviteurs à entrer dans la même confiance. « Faites tout ce qu'il vous dira. » Elle reçoit au pied de la croix la mission de nous former, nous aussi, à entrer dans cette confiance. « Voici ton fils. » Elle devient mère des hommes pour nous apprendre à entrer dans ce dessein de Dieu, de remettre entre nos mains son œuvre pour que nous l'accomplissions parce que nous sommes remplis de l'Esprit-Saint. Et nous comprenons alors que, en voyant la Vierge Marie, c'est le dessein de Dieu victorieux dont il nous est montré le fruit. Et non seulement le fruit nous en est montré, mais ce fruit nous est montré pour que nous osions nous y associer, nous aussi. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque, pour déclarer quelqu'un de saint, on recherche un miracle et un deuxième miracle après leur mort? Mais c'est le signe, justement, qu'ils sont à l'œuvre dans la grâce de Dieu. Et donc que le salut de Dieu s'est pleinement accompli par eux, en eux, que la grâce de Jésus passe par leur cœur pleinement. Ils ne sont pas spectateurs, mais ils agissent de tout leur être glorifié sur cette terre, dans la vie divine. Pensez encore à cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Et donc, passer par l'intercession de la Vierge Marie, c'est reconnaître la victoire du Seigneur, le salut abouti dans notre humanité, qui devient participant de la vie divine et actrice avec Dieu, en Dieu, par lui, avec lui et en lui. Bien loin de faire de l'ombre au Seigneur, elle est celle qui nous conduit à lui, elle est celle qui nous permet de vivre pleinement avec lui à la hauteur inimaginable à laquelle Dieu a voulu nous appeler. Alors, la solennité de l'Ascension est aussi le lieu de découvrir, de redécouvrir avec confiance la dévotion à la Vierge Marie comme porte du ciel, parce qu'elle nous apprend à vivre pleinement de la grâce selon le dessein de Dieu. Frères et sœurs, que cette solennité de l'Ascension nous donne à la fois le goût du ciel et la volonté d'apprendre à agir dès à présent pour faire la volonté de Dieu. Mettons-nous à l'école de la Vierge Marie pour assumer avec humilité et joie la place que Jésus nous fait pour que nous œuvrions avec lui. Amen.